Il est 6h45, vous écoutez France Culture et vous faites bien. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour
à
tous.
Puisque c'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, Xavier, le Yémen.
Et oui, avec cette accalmie subite à Hodeïda, la grande ville de l'Ouest lundi soir, et des annonces de pourparlers de paix en Norvège. Alors après plus de 3 ans de guerre, la fin du conflit au Yémen est-elle proche ou bien est-ce ce qu'on appelle un miroir aux alouettes? On voit ça avec vous, François Frison-Roche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu, vous êtes chercheur au CNRS, CERSA Université Paris 2, bien entendu spécialiste du Yémen. Alors Hodeïda, il y a eu le siège début juin, l'offensive début novembre, après l'échec de négociations à Genève. Cette fois, c'est le Foreign Office britannique qui annonce des pourparlers plus tard ce mois-ci, sous 15 jours. La preuve que la coalition qu'on disait intransigeante, arabo-saoudienne et émiratie, peut se faire dicter des conditions?
Je n'y crois pas véritablement. Et bien sûr qu'on finira par arriver à table de négociation. Encore faudrait-il que les conditions d'une vraie négociation puissent exister. Je pense qu'à l'heure actuelle, elles n'existent pas. Donc on peut faire des bruits de toge, des discours. Bien sûr que des négociations auront lieu un jour. Mais certainement pas un si bref délai et dans les conditions actuelles.
Oui, il faut quand même souligner qu'il y a eu une offensive diplomatique ces derniers jours sans précédent, avec des propos d'Emmanuel Macron, de Donald Trump, une visite de Mike Pompeo, je crois que même John Bolton aussi, sans compter les Britanniques qui sont allés à Riyad.
Oui, des effets de manche, parce que en effet, on est pressé par des images terribles qui nous parviennent de la famine au Yémen. Il faut occuper le terrain médiatique, donc on va parler de paix. Ça fait 3 ans et demi quand même que cette guerre a débuté, donc c'est bien que on se mette à parler de paix et qu'on demande à ce qu'il y ait des négociations. Là encore, il faut que ces négociations elles soient préparées sérieusement. Or, on ne parle pas véritablement de ce qui gêne, c'est-à-dire aussi les précédentes résolutions de l'ONU, qui imposent des conditions aux Houthis qui vont évidemment pas aller dans ces négociations en position de faiblesse alors qu'ils tiennent le terrain.
Donc il y a encore un avantage ou plusieurs avantages de terrain à gagner. Si on reparle de l'enjeu stratégique et de sa valeur relativement à ce calendrier de négociation, donc il y avait des négociations, des pourparlers prévus début septembre qui ont été avortés aussitôt parce que les Houthis n'avaient pas les conditions nécessaires.
Attendez, je vous arrête. Ah. Si les Houthis ne sont pas allés aux négociations de Genève, c'est parce que le représentant de l'ONU, Martin Griffiths, n'avait pas été en mesure d'assurer leur sécurité, non seulement pour partir de Sanaa, mais surtout pour revenir ensuite.
Parce qu'il réclamait un avion au Manet, effectivement.
Oui, les Houthis se souviennent qu'il y a 2 ans, dans les précédentes négociations, leur délégation est restée enfermée à Mascat, dans le sultanat d'Oman, pendant 3 mois. Donc, écoutez, quand on organise des négociations, encore faut-il que tout le monde fasse en sorte que ça se passe bien. On a indiqué, voilà, les Houthis ne sont pas venus aux négociations. Ils ne sont pas venus parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas la sécurité nécessaire pour partir et revenir de ces négociations. Donc, bien sûr que les Houthis ont une large part de responsabilité dans ce conflit. Mais il ne faudrait pas leur jeter la pierre trop facilement.
Et donc là, on était début septembre. Peut-être il faudrait expliquer ce calendrier un peu compliqué, parce que quand même l'offensive, en tout cas le siège d'Hodeïda, il dure depuis maintenant quasiment 5 mois jour pour jour. Il y a eu une accélération de l'offensive début novembre, donc quand même un certain délai après ces pourparlers. Pourquoi est-ce que la coalition s'est pressée de vouloir rentrer dans Hodeïda comme elle a commencé à le faire?
Parce que Hodeïda, c'est le nœud de ce conflit à la fois sur le plan militaire, politique et surtout humanitaire. Bordeaux-Hodeïda, ce sera le port par où pourra passer l'aide humanitaire et médicale. Donc, il faut absolument que ce port puisse être disponible pour acheminer de la nourriture. Il y a quand même 14 millions de personnes qui souffrent de famine au Yémen. Sur le plan politique, c'est évidemment pour la coalition une victoire. S'ils prennent la ville d'Hodeïda, ça serait une victoire militaire qui les mettrait en position de force pour de futures négociations. Je pense que, là encore, c'est une vue un peu courte parce que le port d'Hodeïda, il sera certainement pris par la force de la coalition. Donc, l'aide alimentaire pourra arriver. Le problème, ça sera ensuite d'acheminer cette aide aux populations nécessiteuses qui se trouvent dans le nord du Yémen, en région montagneuse. Les routes, les ponts ont été détruits et surtout les Houthis tiennent le terrain et ils vont jouer de cette capacité de nuisance essentielle pour continuer à mettre la pression. Donc, c'est un la prise du port d'Hodeïda qui arrivera certainement, car la ville d'Hodeïda n'est pas une ville houthi. Ils ont des forces, c'est vrai, ils peuvent miner, mais l'immense majorité de la population n'est pas houthi. Ce sont des sunnites, ce sont des yéménites qui n'ont pas envie de voir cette ville assiégée. Il y aura pas une résistance comme à Mossoul, quoi. Je veux dire, on fait toujours les comparaisons avec la Syrie, avec non, Hodeïda, c'est pas une ville houthi. Ils sont pas suffisamment nombreux pour tenir la ville, et donc vu les forces qui sont accumulées, le port finira par tomber. Mais je crains que la prise du port soit une victoire à la Pyrrhus.
Même si Hodeïda, comme vous le dites, c'est un hub logistique, mais c'est aussi, par ce fait même, une source de revenus. Alors, c'est difficilement chiffrable pour les Houthis, mais également le point d'entrée des armements.
C'est vrai que c'est encore peut-être une source de revenus considérable. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Le trafic, la contrebande, tout ça, toujours existé au Yémen, et si ça ne passe pas essentiellement désormais par Hodeïda, ça passera par d'autres chemins, sans compter que c'est une dimension des futures négociations, c'est comment arrêter aussi toute forme de trafic. Vous savez, dans le phénomène de trafic, il n'y a pas les bons et les méchants, vous avez toujours des gens qui, en matière de profit, vont pouvoir s'allier avec n'importe qui pour pouvoir faire ses profits. Récemment, j'ai reçu un document m'indiquant que, par exemple, le fils du président Hadi, Jalal, est impliqué dans les trafics de pétrole. Et que donc, on pourrait se poser la question de savoir si les trafics et l'argent qui était une ressource par Hodeïda pour les Houthis sera totalement tari. Quand il s'agit de trafic, vous n'avez plus de questions politiques. On l'a vu d'ailleurs dans les Balkans. Hein, on voyait des Serbes négocier avec des Kosovars pour toutes sortes de trafics, alors qu'ils étaient opposés sur le plan politique. Eh bien, au Yémen, on voit le même phénomène. Quand il s'agit d'argent, comme par hasard, toutes les dissensions politiques, militaires, ce que vous voulez, s'effacent parce qu'il y a du profit à faire.
Et est-ce que cette réflexion, elle implique aussi la question des ventes d'armes, qu'on va dire légales et officielles, sur lesquelles il y a eu un certain nombre de polémiques, pour lesquelles les pays sont engagés à des divers degrés, selon les types de matériel, tous ne sont pas utilisés au Hodeïda, il faut le dire.
Oui, moi je m'élève un petit peu contre l'hypocrisie de ces organisations non gouvernementales qui ont essayé de trouver là un moyen de pression. Peut-être que c'est un moyen de pression et que ça a forcé un certain nombre de pays à réagir. Mais enfin, c'est très hypocrite.
Efficace pour ralentir l'offensive, peut-être, l'utilisation de certains armements?
Peut-être, moi je ne suis pas militaire et je n'ai pas les connaissances techniques suffisantes, mais j'estime qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que la France va vendre des frégates à l'Arabie Saoudite, que ce ne sont pas ces frégates qui assassinent, qui tuent le Yéménite. Hein. Faut le rappeler quand même, ce sont des bombes à fragmentation de fabrication américaine, transportées par des avions fabriqués aux États-Unis. Donc, je pense que les organisations non gouvernementales, les organisations humanitaires, fort respectables au demeurant, feraient mieux de se pencher sur des questions essentielles, comme justement les questions de ces résolutions de l'ONU qui bloquent les négociations. Là, je pense qu'elles pourraient faire de la pression vis-à-vis d'un certain nombre de gouvernements pour modifier les termes de la future résolution qui sera prise à l'ONU. Parce que sinon, les Houthis n'accepteront pas les conditions qui ont été fixées par les précédentes résolutions.
Et donc, pas plus à attendre de cette entrée en jeu assez massive, hein, des Britanniques, eux, eux également grands fournisseurs d'armes à l'Arabie Saoudite. En un mot, alors, ces pourparlers qui doivent se tenir en Norvège d'ici 15 jours, un mois maximum, est-ce qu'ils vont se tenir? Est-ce que vous voyez les Houthis y aller dans ces conditions?
Eh bien, ça va dépendre déjà si Martin Griffiths est en mesure d'apporter les réponses qu'il n'a pas su apporter aux précédentes négociations à Genève.
Là, il a dit qu'il y avait des garanties. Ouais.
Voilà, mais faut-il encore qu'elle s'effectue véritablement? L'Arabie Saoudite quand même impose une zone de contrôle aérien sur l'aéroport de Sanaa, et si l'Arabie Saoudite décide que l'avion ne partira pas ou l'avion ne pourra pas revenir, eh bien on retomberait dans le même ornière que précédemment. Maintenant, je ne sais pas aussi si pour ces pays ou ces négociateurs aller à cette époque en Norvège ou en Suède dans le froid et dans le noir, c'est pas psychologiquement très néfaste à l'ambiance de négociation. On aurait pu choisir un autre pays, peut-être permettant à ces gens de se retrouver dans des conditions meilleures.
Eh bien, c'est dit, à suivre ces négociations. Attention aux faux-semblants. Merci beaucoup François Frison-Roche, chercheur CNRS.
Je vous en prie.
Merci.